France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Si je vous dis un verre réputé incassable, des chèques déjeuner, des câbles automobiles, des sachets de thé ou même des charpentes et autres climatisations. Drôle d'inventaire à la Prévert, me répondrez-vous peut-être. Tous ces éléments ont pourtant un point commun, il tient en quatre lettres, SCOP, comme SCOPE, Société Coopérative et Participative. Un modèle en forte expansion si l'on en croit les chiffres. En 10 ans, le nombre d'entreprises et de salariés concernés a tout simplement doublé et la formule permis de sauver des emplois menacés. Les Duralex, il y a tout juste un an, les Fralib avant eux, pour ne citer que les plus connus. Mais ce système coopératif n'est pas que la solution du désespoir avant la liquidation générale. Au contraire, plus de 60% des coopératives sont nées comme telles. Et si le portrait robot de la SCOP ressemble plutôt à une petite structure autour de 20 salariés ancrés dans le territoire, cela n'empêche pas certains industriels ou sociétés de services d'employer jusqu'à 3000 salariés, y compris à l'international, tout en étant structurés en coopérative. Donc des coopératives qu'on retrouve encore derrière des librairies, boulangeries, cabinets d'architecture ou de vétérinaires, industries, entreprises de transport, agences de communication, d'experts comptables, et j'en passe. Alors, la SCOP est-elle l'entreprise de demain? Plus pérenne que la moyenne des entreprises françaises? Plus juste, avec des écarts de salaire limités? Plus démocratique, résistante aux crises? Innovante pour certaines? Idéale, la SCOP? Quelques ombres quand même sur cette image d'Épinal. La méfiance des banques et les difficultés de financement. Le casse-tête administratif à sa création. Et puis, toute SCOP soit-elle, elle n'en est pas pour autant invincible. Les Montrelip, les ferries de Cifrance, les lignes télécom Scopelec ont malheureusement vu leur projet se solder sur un échec. Alors, société coopérative, que faut-il en penser? Venez témoigner de votre projet, posez vos questions, pratiques ou non, donnez votre avis. Nos invités sont là pour ça jusqu'à 20h, par téléphone ou WhatsApp, un seul numéro, 01 45 24 7000, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et pour en parler ce soir, nous sommes avec Fatima Bellaredj. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de la Confédération Générale des SCOP. Vous nous expliquerez notamment en quoi ça consiste. Nous sommes également avec Nathalie Magne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse en économie à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Et c'est le sujet de votre thèse, si je ne me trompe pas. Et puis nous sommes en ligne avec François Marciano. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Duralex, donc qui va fêter demain, si je ne me trompe pas non plus, les 1 an de la création de sa SCOP. Alors peut-être, merci, peut-être pour commencer, Fatima Bellaredj, pour poser bien le débat, une SCOP, c'est quoi? C'est déjà le principe de un salarié, une voix, c'est peut-être ça le fondamental?
Oui, ça c'est le socle fondamental. Le principe, c'est une entreprise assez classique, hein, celle que vous trouvez au coin de la rue, l'entreprise de bâtiment, l'entreprise de verre, vous avez cité plein d'exemples, mais avec une gouvernance différente, c'est-à-dire que les associés, ce qu'on pourrait appeler les actionnaires dans les grandes entreprises, sont les salariés, ça change un peu tout.
Ce qui veut dire que c'est un fonctionnement qui est plus démocratique, en tout cas on le verra peut-être. Ça veut dire aussi un management plus participatif avec un dirigeant qui a été élu. C'est votre cas, François Marciano, vous avez été élu par les autres salariés?
Absolument, oui, j'ai été élu par l'ensemble des salariés pour diriger la SCOP en fait.
Et vous avez été élu pour un mandat sur une durée déterminée, comment ça s'est passé?
Sur un mandat de 4 ans en fait, hein. Donc on est élu pour une durée de 4 ans et tous les 4 ans, soit vous êtes renouvelé, soit c'est un nouveau directeur qui est nommé.
Si on continue un peu sur la définition de ce que sont ces SCOP, Nathalie Magne, il y a également la notion de répartition financière qui ne se fait pas de la même manière qu'une entreprise. On citait l'exemple des actionnaires dans des entreprises plus classiques. Comment ça se passe dans une SCOP?
Oui, effectivement, moi j'ai l'habitude de dire il y a 3 caractéristiques importantes pour les SCOP. Donc un salarié, une voix, on l'a dit. Le fait que ce sont les salariés qui possèdent au moins 50% du capital. Et puis cette répartition des bénéfices qui se fait de manière différente. Donc une partie est affectée à la participation pour tous les travailleurs, ça c'est important parce qu'il peut y avoir des travailleurs dans une SCOP qui ne sont pas sociétaires. Ils ont quand même droit à cette participation qui est au moins de 25% des bénéfices. Ensuite, il y a des réserves, ce qu'on appelle des réserves impartageables, qui sont au moins à hauteur de 16% des bénéfices. Et puis les dividendes, on peut verser des dividendes, donc on n'appelle pas ça des dividendes en général, on appelle ça
la rémunération des parts sociales.
Rémunération des parts sociales, merci. Mais qui est limitée à 33% du bénéfice maximum.
Et ouais. Ça, c'est les règles, ce sont les règles règles cadres dès le départ d'une
Ce sont les règles cadres et en réalité, les SCOP font encore mieux que ça, statistiquement, puisqu'elles donnent beaucoup plus que 25%. En fait, c'est autour de 40% la participation. Et puis, la participation
alors,
à tous les travailleurs.
Tous les travailleurs. Ouais, ouais. Travailleurs de manière égalitaire, c'est-à-dire quels que soient les niveaux, ou est-ce qu'il y a des différences de participation?
Alors ça dépend des SCOP. Il peut y avoir une participation. En général, elle est moins inégalitaire que les salaires, on va dire. Mais il peut y avoir une participation totalement égalitaire, ou bien au prorata du temps de travail, ou bien quand même une partie en proportion des salaires. Et puis, en réserve impartageable, elles mettent beaucoup, beaucoup en réserve aussi. Ce sont des entreprises assez prudentes, en fait, les SCOP.
Elles servent à quoi, ces réserves? C'est juste une garantie pour l'avenir? C'est comme
Absolument,
ça que c'est pensé?
Absolument, on peut dire ça, ouais. C'est une garantie pour l'avenir. Et c'est impartageable, ça veut dire que ça appartient seulement à l'entreprise, au collectif des salariés, et pas à chaque actionnaire séparément.
Ce qui veut dire qu'un salarié qui s'en va, concrètement, ne repart qu'avec sa part initiale et pas plus?
Absolument.
Parce qu'il n'y a pas de plus-value possible non plus, si je ne me trompe pas.
Il n'y a pas de plus-value possible, ouais.
Alors, tant qu'on est dans les définitions, avant d'accueillir nos premiers auditeurs, il y a également, parce qu'on parle de la SCOP, qui est le nom le plus connu pour le grand public, je dois dire le seul que je connaissais. J'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait également les SKIC. Je vous regarde, Fatima Belhadj. Est-ce que vous avez, voilà, définissez-nous quelles sont peut-être les différences entre les SCOP et les SKIC, et y en a-t-il tant que ça, finalement?
Voilà, on dit souvent les SIC, les sociétés coopératives
SIC,
d'intérêt
pardon,
collectif.
Je vais mal prononcer.
Non, mais c'est très bien aussi. Hein. Alors, en fait, les SIC, c'est la même chose que les SCOP. Le principe, c'est qu'on va avoir d'autres sociétaires possibles. Donc, il y a forcément les salariés, mais vous pouvez avoir aussi d'autres, ce qu'on appelle des parties prenantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les producteurs, les bénéficiaires. Je cite souvent l'exemple d'Enercop, qui est un producteur d'électricité verte. Et l'enjeu était d'avoir à la fois les salariés, mais aussi les producteurs d'énergie renouvelable, les clients, qui peuvent chacun avoir une part sociale et donc vont participer au projet stratégique de l'entreprise avec souvent une dimension d'intérêt général et d'ancrage territorial qui va primer sur le projet économique.
C'est ça, c'est que les SIC, donc je vais tenter de bien le prononcer au cours de cette émission, elles ont été créées plus récemment, en 2001 si je ne me trompe pas, notamment pour permettre d'élargir le champ en fait du possible dans les créations de coopératives.
Oui, tout à fait. Il y avait vraiment un enjeu en tout cas de faire en sorte que sur des projets économiques, il peut y avoir des intérêts qui vont au-delà uniquement du financier. On va avoir un intérêt à ce que l'emploi soit sur le territoire, qu'il n'y ait pas de délocalisation, qu'il soit décidé par des acteurs extérieurs. Et donc là, tous ceux qui sont intéressés au développement d'emplois sur le territoire, je pense notamment aux collectivités territoriales qui peuvent dire aussi, nous ça nous intéresse de rentrer dans ce projet économique parce que derrière, on va structurer une filière économique, on va développer un territoire, on va maintenir l'emploi ici et on va faire partie des décideurs avec tous ceux qui ont intérêt à ce que ce développement économique, il soit là au niveau de l'échelle territoriale.
Alors, puisqu'on a bien, je pense, posé les termes du débat, je vous propose qu'on accueille ensemble notre première auditrice, Céline, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci. Je m'interrogeais sur le fait, est-ce que les SCOP aujourd'hui portent un projet d'entreprise au-delà de la partie gouvernance qui prend en compte la partie impact environnementale et sociale et la partie valeur dans le travail pour se dire finalement aujourd'hui le modèle économique de l'entreprise peut être partagé, enfin la partie gouvernance peut être partagée avec les salariés, c'est pas pour autant que le reste peut être vertueux et durable dans un monde de ressources finies.
Merci beaucoup Céline pour votre question. Nathalie Magne, est-ce qu'elles sont tenues les SCOP à avoir effectivement au-delà de simplement cette participation, ce qui est déjà pas mal en soi, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont prônées dans les SCOP?
Elles ne sont pas tenues, donc ça c'est intéressant effectivement. Hein, les seules règles qui sont contraignantes, on peut dire, pour les SCOP, c'est celles dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de règle qui dit que les SCOP doivent être plus vertes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, c'est difficile d'avoir des données, des enquêtes très systématiques, comparatives. Est-ce que les SCOP en moyenne sont plus vertueuses pour l'environnement que les entreprises classiques? Les quelques enquêtes qu'on arrive à faire quand même tendent à montrer que oui, un petit peu, mais c'est pas hyper net. Donc je répondrai plutôt en disant c'est quand même principalement donner le pouvoir aux salariés, les coopératives. Après, bien sûr, il y a des coopératives qui ont des projets très 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 intéressant pour l'environnement et donc c'est l'activité principale.
Fatima Belhadj sur ce sujet, et puis j'en profite parce qu'on ne l'a pas fait, peut-être nous dire ce qu'est la Confédération Générale des SCOP et est-ce qu'au sein de cette confédération vous voyez effectivement peut-être plus d'entreprises vertueuses ou pas?
Oui, bah, alors la Confédération, c'est l'organisation en fait, qui fédère en fait, l'ensemble des SCOP et des SIC. Hein. Il y en a 4500, ça représente 90 000 emplois. Ça pèse 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc, comme vous l'avez dit, ça a doublé en 10 ans. Ouais. Et par rapport à la question de notre auditrice, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le statut n'oblige pas effectivement à mesurer l'impact environnemental, etc. L'ADN est vraiment l'ADN autour du travail, des salariés, etc. Pour autant, justement, le rôle d'une confédération, c'est d'être en avance. Hein. On aime nous dire que nous sommes l'entreprise de demain, celle sur laquelle on va avoir une dimension démocratique. Et vous savez, aujourd'hui, l'une des préoccupations très fortes des citoyens, qu'on retrouve aussi dans les SCOP, c'est cet impact environnemental. On aime parler en tout cas de citoyenneté économique chez nous, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans l'économie qu'on n'a pas cette préoccupation citoyenne de faire du bien en fait à l'environnement. Et donc nous, on le mesure par des enquêtes que nous avons réalisées, mais qui sont des réalisations que nous avons fait nous-mêmes. Et nous avons engagé en tout cas un accompagnement très fort, en tout cas pour faire en sorte que la préoccupation environnementale soit une opportunité et pas une contrainte. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne en fait ces entreprises-là à investir dans leur outil de production. François va peut-être en parler parce que c'est un enjeu, y compris de compétitivité. Et donc, l'enjeu n'étant pas que le financier, cette dimension environnementale, dans les dernières enquêtes que nous avons réalisées, est une préoccupation prioritaire pour les SCOP et pour les SIC.
François Marcianeau, justement, donc je rappelle que vous êtes directeur général de la SCOP Duralex. Est-ce qu'effectivement, depuis que Duralex a fait un an, est passé en SCOP, il y a d'autres valeurs qui se sont ajoutées à celles de l'entreprise initiale ?
Alors, bon, Fatima vient de l'expliquer. Hein. Déjà, c'est le marché qui demande à ce qu'on soit exemplaire. Et ensuite, vous avez quand même les équipes qui se disent « Mais oui, mais Duralex, par exemple, je vous donne ce cas-là parce que je le connais, n'a pas investi depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait pour pas polluer? Qu'est-ce que demain on va faire pour plus consommer d'eau, etc., etc., etc. » Et ça, c'est tout le travail des salariés parce que c'est leur entreprise. Mmh. Et donc, comme c'est leur entreprise, ils ne veulent pas polluer leurs voisins.
Oui, et puis donc il y a une pression finalement de l'équipe même qu'il n'y avait peut-être pas avant du temps de Duralex, entreprise plus classique.
On est exactement dans ce schéma-là, hein, c'est-à-dire avant, de toute façon, enfin, je ne vais pas vous faire de dessin ou partez des bénéfices. Aujourd'hui, les salariés ne cherchent pas à s'enrichir. Ils cherchent à ce que leur entreprise soit la meilleure. Donc, soit la plus verte possible, soit la plus propre possible, soit la plus représentative possible. Et en plus, veulent que répondre à leurs clients. Donc, on a vraiment cette puissance qui n'existait pas dans un système classique.
Sylvain nous appelle de Bretagne. Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi, j'apporte mon témoignage. On a ouvert une société coopérative en ambulance en 2016, sur une reprise d'une société existante. Le projet est très beau au départ, vraiment très intéressant, accompagné par le SCOP qui nous a accompagné sur un tas de choses. Ça a très bien marché pendant plusieurs années et depuis environ 3 ans, déjà on a eu beaucoup de mal à faire rentrer les salariés comme associés. Parce qu'on a un système de travail au niveau des ambulances qui, à notre sens, ne convient pas au système de société coopérative. Mm-hmm. Parce qu'il y a énormément d'heures à faire pour chacun et tout le monde n'est pas prêt à s'investir à la hauteur de 16 heures. Et là, quand on a essayé de chercher des réponses juridiques auprès des sociétés coopératives, enfin de l'URSCOP, par rapport aux problématiques qu'on pouvait avoir, on a eu quasiment pas de réponse. Les interlocuteurs qu'on avait habituellement n'étaient pas là pour nous répondre. Donc on s'est retrouvé face à beaucoup de problèmes qu'il a fallu qu'on gère. Il a fallu qu'on trouve des solutions nous-mêmes, qu'on trouve des avocats à l'extérieur. Et c'est un peu la problématique aujourd'hui, quoi.
Merci beaucoup Sylvain pour votre témoignage. Nathalie Magne, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, est-ce que finalement la SCOP, elle peut être un schéma qui convient à tout type d'entreprise? Et ensuite, il y a cette question de faire rentrer également les salariés dans la SCOP, qui n'est peut-être pas toujours une opération si évidente que ça. C'est un peu en tout cas ce que nous dit Sylvain.
Alors, est-ce que ça convient à tout type d'entreprise? Ça, c'est quand on regarde le panorama des scopes en France, on a quand même des scopes dans des secteurs d'activité très très différents. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays pour toutes les coopératives de travailleurs. Donc ça, c'est quand même une spécificité française, il faut le dire. Il y a très peu de secteurs où il y a vraiment, peut-être, je parle sous le contrôle de Fatima Bellarej qui me corrigera peut-être, mais il y a peu de secteurs où il n'y a vraiment pas du tout de scope. Donc des restrictions par secteur d'activité, je dirais pas, j'en ai pas en tête. Pour les SIC, c'est peut-être un petit peu plus, enfin je dévie un petit peu de la question, mais pour les SIC, c'est peut-être un petit peu plus spécifique parce que les SIC sont encore plus nouvelles. Donc elles sont encore inconnues et du coup il y a quelque chose d'intéressant avec les SIC, c'est qu'il y a des forts effets d'entraînement. Quand on voit une SIC ou deux SIC qui se créent dans un secteur d'activité, alors ça donne envie à plein d'autres. Donc ça montre bien qu'il faut un peu des éclaireurs, quoi, des entreprises éclaireurs qui...
Et puis peut-être parce que c'est assez méconnu encore, tout simplement, qu'on n'a pas forcément cette idée-là, quoi.
Et on se dit que c'est compliqué, que ça ne va pas convenir à notre projet, etc. Et puis en fait, voilà, quand on voit des exemples, les personnes se lancent plus facilement, quoi. Et pardonnez-moi, j'ai oublié la deuxième...
C'était sûr, mais peut-être que Fatima Bellarej peut compléter sur l'entrée, en fait, de nouveau. Parce que la vocation d'une SCOP, c'est quand même d'avoir un maximum de salariés qui en fassent partie. Je crois que c'est 68% en moyenne. Est-ce que c'est compliqué, finalement, d'entrer dans une SCOP quand on arrive en cours de route?
Non, mais tout à fait, par rapport à la question de Sylvain. Nous, dans le modèle, l'enjeu, c'est plus les salariés ont envie de s'impliquer, on a envie, effectivement, qu'ils prennent part au projet de l'entreprise. Mais tous les salariés n'ont pas forcément cette volonté-là. Donc, on a dans les statuts, c'est-à-dire la carte d'identité de l'entreprise au démarrage, la proposition d'entrer au sociétariat. Et tout le monde n'y va pas. La preuve, c'est qu'effectivement, on est sur un taux de sociétariat à 68%. Là, l'enjeu pour nous, c'est plutôt d'essayer d'échanger pour, en tout cas, voir un peu quels sont les freins et puis de respecter, en fait, la position du salarié. On peut avoir très envie de travailler dans une entreprise pendant 2 ans, 3 ans et pas forcément se projeter. Puis un petit message quand même pour Sylvain par rapport à son union régionale. L'URSCOP, c'est l'union régionale, donc c'est nos représentants sur les territoires. Ne pas hésiter en tout cas à prendre contact directement avec nous. C'est vrai que nos équipes ont plus l'habitude d'accompagner à la création, au développement, mais si vous faites face en tout cas à des difficultés juridiques, on est là aussi pour y répondre et pas vous obliger à rester dans un statut si vous ne souhaitez pas y rester.
François Marciano, sur la participation des salariés, comment ça se passe chez Duralex? Je crois que vous en avez accueilli déjà des nouveaux sociétaires depuis un an. Quelle est la proportion? Quelle est la réalité chez vous?
Alors nous la réalité, c'est que c'est 75%. Mmh. La deuxième, c'est que d'ici 5 ans, ça va être obligatoire à 100%. On a un vote des associés qui désirent que dans 5 ans, 100% des salariés soient associés. C'est-à-dire que tous les nouveaux sont obligés de devenir associés.
Et concrètement, on devient associé comment? On arrive avec sa participation? Est-ce qu'elle est la même pour tous? Est-ce qu'elle est proportionnelle à un salaire, un niveau de rémunération ou pas? Comment ça se passe au concret?
Alors, Fatima vous donnera les règles générales. Pour chez Duralex, on a fait une règle très simple. On a limité à 50 euros la part, hein, et on a dit vous pourrez mettre au minimum 10 parts, hein, et au maximum 20 parts.
Ça, c'est le choix que vous avez fait et que vous avez voté, puisqu'on rappelle que c'est un management participatif, vous avez tous voté ensemble.
C'est ça. Hein, donc, ils mettent entre 500 et 2000 euros pour rentrer au capital.
Fatima Bellarej, on a parlé effectivement des règles fondamentales de la SCOP. Finalement, ce que je comprends aussi de ce que nous dit François Marciano pour Duralex, c'est qu'il y a aussi beaucoup de souplesse en fonction de ce que décide chacun, ce que décident ensemble plutôt les salariés d'une SCOP à l'autre. Est-ce qu'on peut aussi conclure ça?
Je pense que vraiment ce qu'il faut retenir, c'est la souplesse, c'est-à-dire que vous avez ce que Nathalie Magne a présenté tout à l'heure, qui sont vraiment les règles au niveau des obligations. Là, typiquement, sur le montant de la part sociale, vous allez la définir en fonction du projet. Il est évident que vous n'allez pas demander, si vous êtes sur un projet où on va avoir des niveaux de qualification assez bas ou une grosse partie de la main-d'œuvre qui va être ouvrière, leur demander des 1000 et des 100. Et donc, il y a vraiment une souplesse et donc on a quand même beaucoup de sociétés coopératives qui vont démarrer avec des parts sociales à 15 euros et puis d'autres qui vont être dans des métiers, des bureaux d'études, études, avec plutôt des cadres. Et en fait, les équipes de salariés, en tant que futurs associés, vont dire bah, ça serait bien qu'on fasse plutôt des parts sociales à 100 euros. Et donc, c'est vraiment souple et à la main, en fait, de ceux qui créent cette entreprise et donnent les règles qu'ils souhaitent mettre en place. Et y compris par rapport à ce que disait François. Il y a aussi, moi j'ai été recrutée hein, toute petite, donc je sortais de mes études et donc j'ai versé une partie de mon salaire parce que j'avais pas forcément les moyens de pouvoir mettre une mise de départ. À l'époque c'était en francs, mais ça me tenait à cœur et donc j'ai versé 3% de mon salaire et ça m'a permis voilà pendant 5 ans de rejoindre les autres collègues associés. C'était une grande fierté pour moi de devenir associée comme ça.
En préparant cette émission, effectivement, j'ai beaucoup vu revenir dans les témoignages de salariés d'Escop cette notion de fierté, de véritablement c'est mon entreprise. Tout ça, j'imagine que ça joue aussi sur une motivation au travail, pour faire assez bref, Nathalie Magne.
Oui, tout à fait. Et c'est étonnant dans certains secteurs d'activité où l'objectif professionnel des salariés peut être l'activité indépendante. Ça peut être aussi quelque chose d'intermédiaire, quoi. Donc les personnes voient comme un statut social plus élevé le fait d'être sociétaire de leur coopérative par rapport à simple salarié, comme ils disent. Et sur la motivation au travail, oui, certainement. Alors ça, c'est un grand débat dans la littérature, effectivement, théorique. Alors oui, bien sûr, il va y avoir une motivation intrinsèque, comme on appelle ça, des salariés qui se donneront beaucoup plus au travail, etc. Et puis, avec un risque parfois de trop travailler, parfois on utilise le mot auto-exploitation parce que les salariés ne sauraient plus vous arrêter. Les études empiriques réussissent à montrer ça, oui, que la productivité du travail est... Il n'y a pas un consensus très fort dans la littérature. Hein, donc en général, enfin, il y a un consensus pour dire que la productivité du travail n'est pas plus faible dans les scopes. Certaines études trouvent qu'elle est plus élevée et d'autres trouvent qu'elle est un peu similaire. Et puis, certaines études trouvent que ça dépend des secteurs d'activité. Donc dans les secteurs d'activité, il y a un article récent qui est paru dans les secteurs d'activité dans lesquels, très innovants par exemple, c'est là que les scopes ont un avantage compétitif plus important que dans d'autres secteurs d'activité.
François Marciano, vous le partagez ce diagnostic de la fierté et puis ce rapport peut-être à une plus grande motivation, outre le fait en plus que vous, ça a permis de clairement sauver votre entreprise ?
Alors, nous, on l'a vécu en direct, hein, parce que le lundi, on était une société capitalistique, et le mardi, on était en Scop. Hein, donc, on a vu le lendemain, en faisant le tour et en disant bonjour aux associés, hein, qui étaient la veille les ouvriers, et le lendemain, les associés. Et j'arrive dans un secteur, et puis je dis, mais il fait sombre quand même, vous allumez pas la lumière, et ils me répondent « Ah mais non François, c'est nous qui payons maintenant !» Vous voyez, donc c'est ça, effectivement, je vais dire que la productivité a augmenté, et certains qui allaient piam-piam vont maintenant à une vitesse, je veux dire, normale. Maintenant, il y a les règles, hein, je rappelle toujours, hein, il y a l'inspection du travail qui veille au grain, il y a les règles d'État, il y a tous les organismes qui pilotent autour de nous l'entreprise, hein, parce qu'il y a toujours quand même l'État qui surveille les entreprises, qu'elles ne font pas n'importe quoi, et donc il n'y a pas de risque que les employés fassent beaucoup d'heures, en fait.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et au téléphone sonne, ce soir, on parle des SCOP et des entreprises coopératives en général. Nous sommes avec Fatima Bellaredge, déléguée générale de la Confédération Générale des SCOP, avec Nathalie Magne, enseignante-chercheuse en économie à l'Université de Montpellier, et avec François Marciano, directeur général de Duralex, qui fête les 1 an de sa création en SCOP. Et nous accueillons Jamal, qui nous appelle de Paris. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. J'enseigne les sciences de gestion et je constate qu'autour de moi, dans les écoles de commerce, dans les filières de gestion et management, dans les filières comptables, on ne parle et on enseigne surtout l'entreprise classique, le modèle classique. Et le modèle des SCOP est peu enseigné, mal connu. Et parfois, quand j'interroge mes étudiants, ben, on leur a dit que c'était compliqué, que c'était fiscalement compliqué, et que donc finalement, ils ne connaissent pas très bien. Et du coup, ma question, est-ce que les pouvoirs publics ne pourraient pas faire quelque chose au niveau des programmes et des formations pour que cela soit mieux connu ?
Merci beaucoup pour votre question, Jamal. Nathalie Magne, effectivement, il y a encore cette culture d'entreprise à la française, très classique. Et aussi, j'ai lu beaucoup d'a priori sur les scopes. Une coopérative, c'est utopique, c'est réservé aux tout petits artisans, il faut un vrai patron, tout ça, effectivement, c'est encore une réalité aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Moi, je suis donc chercheuse, mais aussi enseignante, hein, et à l'université de Paul-Valéry Montpellier, comme vous l'avez rappelé. Et alors, moi, j'en parle des scopes dans mes cours d'économie,
je vous le souhaite,
en licence AES et puis en master économie sociale et solidaire. Mais c'est vrai que ce sont des formations spécifiques avec des étudiants, enfin, pas en AES, mais en économie sociale et solidaire, des étudiants qui connaissent déjà le modèle. Et oui, tout à fait, dans les écoles de gestion, dans les écoles de commerce classiques, on parle très peu de scopes. Bon, je ne sais pas si les pouvoirs publics ils peuvent grand-chose, hein, parce que les écoles de commerce décident de leur propre programme. Mais...
En tout cas, peut-être que cette émission peut y participer. Fatima Bellaredj, effectivement, on a parlé de ce doublement du nombre de scopes en 10 ans. Malgré tout, ça reste encore un modèle assez méconnu.
Oui, mais je pense que la question qui vient d'être posée est assez cruciale. Je remercie l'auditeur, parce que aujourd'hui, très clairement, enfin, moi, je suis économiste de formation, je n'ai jamais entendu parler de scope avant d'en croiser une par hasard. Et du coup, là, il y a vraiment un très gros gap. En tout cas, ça ne fait pas partie des modèles qui sont enseignés. Ça ne fait pas partie non plus des modules de formation qu'on propose aux entrepreneurs, notamment avec les consulaires. Bon, là, il y a une mission reprise qui est lancée par la ministre. On va voir si, effectivement, on va pouvoir peser de ce côté-là. Et du coup, ça fait beaucoup d'idées reçues. Vous évoquiez là notamment les idées reçues. Moi, je dis souvent, je donne l'exemple, puisqu'on a parlé la reprise de Duralex à la barre du tribunal. Donc, c'est une entreprise qui ne va pas bien, on trouve une solution. Mais pensez à toutes les entreprises.
Qui reste minoritaire, hein, rappelons-le.
Oui,
c'est en dessous de 10% des entreprises,
oui,
ces cas-là.
C'est
ceux qu'on aime bien médiatiser, mais ce n'est pas forcément la réalité du quotidien.
Et en fait, il y a quelque chose qui a fait qu'on a effectivement grossi le nombre d'emplois coopératifs, c'est notamment la transmission. Alors, qui, pour le coup, est un sujet de politique publique, puisque aujourd'hui, il y a entre 250 000 et 750 000 dans 10 prochaines années d'entreprises qui ne vont pas trouver de repreneurs. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête d'une entreprise et qui voudraient la vendre ne vont pas trouver de repreneurs.
Moi, c'est quoi ? C'est le départ à la retraite du
ça peut
dirigeant
être le départ,
en général ?
C'est souvent le départ à la retraite, mais on a aussi de plus en plus, en fait, des changements de vie et donc des gens qui ont envie de vendre leur entreprise pour se lancer dans d'autres aventures. Là, je leur lance un appel en leur disant, mais regardez ce que vous avez sous le nez, vous avez des salariés.
Mais il y a une obligation légale, non, en tout cas pour les patrons de PME, d'avertir leurs salariés lors d'un départ à la retraite ?
Alors, il y a un droit d'information sur la vente, qui, d'ailleurs, la vente d'une entreprise qui est passée de 2 mois à 1 mois.
Sachez un peu court pour monter une scope. Quoi.
un peu court. Déjà, 2 mois, c'était court. Mais même en laissant ça de côté, qui ne plaît pas, en fait, aux syndicats patronaux, faites juste circuler l'information, parce que, pour le coup, 100% en tout cas, des cédants qui ont vendu leur entreprise sont vraiment... très content parce qu'ils l'ont vendu, parce que dans les idées reçues, c'est on vendrait à ses salariés, du coup on braderait. Alors je peux vous assurer, nous qui sommes dans les protocoles d'achat, que non, elles ne sont pas bradées, elles sont vendues en fait au prix du marché. Et donc nous, notre rôle à la Confédération, c'est d'accompagner en fait ces salariés notamment à trouver les sommes pour acheter les entreprises, bon, alors avec les moyens que nous avons, à convaincre les banques.
Parce que c'est parfois un défi.
Parce que parfois, ça peut être un défi. Alors après, on a des partenariats, hein. On a beaucoup de banques coopératives, hein, qui nous suivent de très près. Et puis, on forme aussi, parce qu'on dit souvent, on ne naît pas coopérateur. On le devient, et donc ça, la formation, là, je crois que les équipes chez François Marsagneau à Duralex sont accompagnés en fait par les équipes régionales qui les forment en fait, parce que c'est pas pareil d'être salarié à son poste de travail et puis à un moment donné associé et donc décisionnaire dans les décisions pour l'entreprise.
On ne naît pas coopérateur, on le devient. Je crois que c'est parfaitement en phase avec le témoignage de Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, j'appelle d'à côté d'Alès, dans le Gard, et donc je suis dirigeant d'une entreprise dans l'agroalimentaire qui a une centaine de salariés. On fait des épices en bio. Et on est actuellement une SA classique, et on a pris la décision l'année dernière de se transformer en SIC, et ça va être fait d'ici la fin de l'année. Là, en décembre, on a notre AG extraordinaire pour passer ce cap-là.
Et, c'est une décision qui s'est prise comment, qui est née de quelle motivation ?
Alors c'est vraiment, en fait, on est une entreprise, on est dans la bio, dans le commerce équitable, on a beaucoup travaillé avec nos parties prenantes, et pendant longtemps j'ai cru qu'on pouvait transformer l'entreprise classique pour lui apporter plus de sens, plus de valeur, plus d'éthique. Et ces dernières années, avec l'entreprise qui maintenant a un peu plus de 30 ans et qui a accumulé du report à nouveau des bénéfices qu'on n'a pas distribués, puisqu'on avait une politique de distribution de dividendes assez faible, eh ben, j'ai constaté qu'en fait, ces bénéfices non distribués qu'on dit habituellement qu'on laisse pour l'entreprise, pour l'investissement, en fait, c'est une dette qu'on accumule vis-à-vis des actionnaires. Les actionnaires restent propriétaires de l'ensemble des bénéfices, même ceux qui ne sont pas distribués. Alors, ils prennent le risque si jamais il y a des pertes, mais à tout moment, ceux qui restent, ils peuvent décider de se les distribuer. Et ça fait peser une épée de Damoclès importante, d'autant que les actionnaires de la première génération, c'est ce que j'ai commencé à vivre aussi, et ben, petit à petit, ils transmettent à leurs enfants, et ça, on ne peut pas le contrôler, en fait. Au début, on a choisi nos actionnaires, mais au fur et à mesure des générations, on ne peut plus les choisir, et on rentre dans quelque chose qui amène soit quand les entreprises marchent bien, avec on crée des générations de rentiers, soit avec une entreprise où peut-être à un moment donné on est obligé de vendre un fonds d'investissement pour réussir à offrir la liquidité que demandent les actionnaires. Et ça, je voyais que ça risquait à brève échéance de transformer le projet de l'entreprise et de s'éloigner vers où on devait aller. Et la coopérative, alors nous on a choisi la SIC en plus parce que ça permet de mettre toutes les parties prenantes au conseil d'administration, mais surtout ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont les réserves impartageables. Ça c'est vraiment quelque chose de spécifique aux coopératives, enfin qu'il y a aussi dans les associations, c'est que l'ensemble des bénéfices qu'on décide de mettre en réserve, ils sont définitivement impartageables, les associés ne pourront jamais se les partager, et ça crée vraiment une richesse collective qui appartient en fait au commun et qui reste dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui devenait complètement indispensable au fur et à mesure que l'entreprise grossissait et qu'elle prenait une certaine valeur, quoi.
Merci beaucoup Mathieu pour ce témoignage. Je dois vous partager les coulisses de cette émission pendant que vous avez commencé votre témoignage. Fatima Bellaredge a levé son pouce en signe de victoire pendant ce témoignage. Je vous invite à répondre du coup peut-être Fatima.
Oui, ben, merci beaucoup en tout cas de votre témoignage Mathieu. C'est vrai que là ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est effectivement dans des périodes de contexte économique tendu, on sait en fait la fragilité que peuvent rencontrer toutes les entreprises. Et donc, l'exemple qui est donné, c'est effectivement ce que disait Nathalie Mann tout à l'heure au niveau des réserves impartageables. C'est que ça, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Pour tous ceux qui sont dans des entreprises, savent l'importance que c'est, notamment quand on a eu la crise sanitaire, là actuellement cette crise économique, il y a des moments à passer qui vont être difficiles. Et effectivement, si vous avez un ou deux actionnaires qui considèrent que peut-être que l'avenir n'est plus dans cette entreprise et veut retirer en fait ses parts, vous devez effectivement lui rendre, le remettre. Les réserves impartageables permettent vraiment d'avoir ce socle.
De sécuriser,
c'est,
oui.
C'est ce qui fait la robustesse de nos entreprises et vous évoquiez le taux de pérennité. Le taux de pérennité est très lié à ces réserves impartageables qui fait qu'au-delà de 5 ans, on a effectivement 4 entreprises sur 5 qui existent encore, quand toute entreprise confondue, il n'y en a que 3 sur 5 qui existent encore.
Oui, effectivement, cette notion de pérennité, Nathalie Magne, elle revient souvent hein, quand on s'intéresse à cette question des scopes, parce qu'il y a plus d'investissements à long terme, il y a cette robustesse des réserves impartageables, il y a une meilleure résistance globale aux crises, en fait.
Oui, tout à fait.
Et on l'a vu avec la crise du Covid, notamment a posteriori.
Oui, on le voit avec la crise du Covid, on le voit pour toutes les crises économiques en fait. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas lié, parce qu'il y a parfois une autre idée, une idée reçue, on a parlé des idées reçues sur les scopes, c'est que les scopes, on dit souvent les scopes préservent les emplois, elles licencient moins. Donc c'est vrai, mais on dit souvent aussi, c'est parce qu'elles seraient dans des secteurs d'activité protégés. Et ça, c'est pas vrai, elles sont vraiment dans des secteurs d'activité similaires à celles des entreprises classiques. Et là, pour le coup, il y a un consensus très fort dans la littérature, et beaucoup d'études ont regardé ça. Les scopes ont tendance à vraiment préserver les emplois beaucoup plus que les entreprises classiques quand elles sont confrontées au même choc de demande, donc aux crises économiques de même ampleur en fait. Et donc grâce aux réserves impartageables, et puis aussi parce qu'elles ont une flexibilité plus grande, enfin elles utilisent d'autres modes de flexibilité on va dire, sur les rémunérations et puis...
Oui, le fait de baisser de manière générale un peu tous les salaires, le temps alors, que la crise passe, pour
baisser
parler
les
très
salaires,
simplement.
On ne peut pas tout à fait le faire comme l'a rappelé tout à l'heure François, il y a quand même le droit du travail hein, qui s'applique dans les SCOP comme dans les autres, comme dans les autres entreprises, mais du fait qu'il y a une part plus importante des rémunérations qui est variable dans les SCOP, de la participation notamment. Et puis, elles adaptent aussi un peu plus les heures. Donc, il y a une manière plus égalitaire, en fait, d'encaisser le choc économique dans les SCOP que dans les entreprises classiques.
Nous avons Denis qui nous écrit via WhatsApp et qui dit, au-delà de la présentation bien idyllique, comment ça se passe le management, les rapports de force, l'exercice de l'autorité quand on n'est pas d'accord, la soumission à l'autorité dans un modèle qui se veut horizontal, les relations avec les syndicats, en bref, tout ce qui se passe habituellement mal dans n'importe quelle entreprise. Je crois que c'est une question pour vous en priorité. François Marciano, ça se passe comment pour vous ?
Mais il n'y a absolument rien qui change. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelque chose qui change ? Mais c'est toujours pareil, ça reste une entreprise avec ses fonctionnements habituels, ses dysfonctionnements habituels, et donc les engueulades habituelles et les rapports de force habituels. Donc une SCOP, c'est ce que je dis toujours, ça reste une entreprise. Hein, en tout cas, nous, dans l'industrie, c'est simplement un mode juridique. Pourquoi nous, on a choisi une SCOP chez Duralex ? C'était justement pour dire la seule façon de porter le projet industriel et de sauver cette entreprise, il n'y avait pas d'autre modèle, il n'y en avait qu'un, c'était la SCOP. C'est pour ça qu'on avait choisi ça. Donc oui, c'est comme les autres entreprises, il y a toujours les mêmes histoires et toujours les mêmes choses. Bon, ça se règle toujours de la même façon, c'est une histoire d'homme, hein, d'honnêteté et de droiture. Hein.
Et de femme.
Ah bah et de femmes, nous rappelle Fatima Bel. Avec un grand H, on est bien d'accord.
Bien sûr, on est d'accord.
Antoine, qui est un homme, je crois, nous appelle de Rouen. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de m'avoir pris à l'antenne. Bonjour à toutes et tous. Moi, je travaille à Rouen dans une coopérative qui est transformée d'une association en 2020, donc qui a été aussi un gros avantage, mais ma question ne porte pas là-dessus. On est une coopérative, donc une PME d'une trentaine de salariés. On travaille dans un tiers-lieu culturel, donc à Rouen, donc qui fait restauration, bar et événementiel, concert, donc sur un ancien site industriel SNCF en l'occurrence. J'indiquais tout à l'heure justement que on a tendance à rappeler qu'on est, je pense, localement les meilleurs ambassadeurs du modèle coopératif et du modèle des SCOP, que ce soit autant dans le réseau ESS, donc Économie sociale et solidaire, qui a tendance à plutôt bien connaître et défendre ce modèle-là, mais également auprès de réseaux d'entrepreneurs un peu plus traditionnels, entre guillemets. Et donc, on est les premiers à faire valoir un modèle économique beaucoup plus vertueux, respectueux de la société, des humains, de l'environnement aussi, beaucoup. Et au-delà de ça, ma question du coup portait plutôt à la destination de la Confédération
Générale des SCOP, oui.
Générale des SCOP, à savoir quelle était un peu sa démarche, sa politique de communication pour réussir avec une envergure beaucoup plus large et à rayonnement national. Réussir à communiquer, développer ce magnifique mouvement et ce statut qui a clairement de l'avenir et qui pour moi, et je crois que vous en parliez tout à l'heure, est un petit peu l'entreprise de demain.
Merci beaucoup pour votre question Antoine. Fatima Belaredj.
En venant plus souvent à France Inter et sur toutes les autres radios, en passant à la télé, en fait, ça coûte très cher. Donc, on y met, nous, on a l'impression de mettre beaucoup, beaucoup de moyens. C'est la communication, c'est la formation qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je dirais aussi, c'est quand même un sujet pour moi de politique publique, hein, quand j'entends nos collègues des syndicats patronaux, parce qu'on est rattaché aussi à un syndicat patronal, c'est l'Union des entreprises de l'économie sociale, l'UDES. Notre voix n'est pas assez prise en compte aujourd'hui face au financement. On évoquait tout à l'heure notamment les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que tout est loin d'être idyllique comme on le présente. C'est de mobiliser effectivement les aides aux entreprises qui existent pour toutes les entreprises, mais pour lesquelles les SCOP et les SIC, je le revendique haut et fort, mais les gens du ministère m'entendent assez régulièrement, nous n'avons pas les mêmes accès. Et donc c'est ça qui nous permettra en fait de rayonner et de continuer à se développer. Et j'en profite pour remercier toutes les coopératives qui ont pris la parole, parce que ces coopératives en fait nous permettent, nous à Confédération, de porter en fait nos actions, puisqu'ils nous versent une cotisation et que ça nous permet d'être complètement indépendants. et du coup de mener ces actions à la fois de formation, de plaidoyer et toutes les actions d'outils financiers que nous avons mis en place et qui permettent d'investir dans les entreprises. Et je ne doute pas que nous continuerons à doubler une fois qu'on sera pris en compte comme n'importe quelle entreprise.
Oui, puisque disait Antoine, c'était aussi nous sommes nos meilleurs ambassadeurs parce
tout
que quand ça fonctionne effectivement,
je vous le confirme.
Et c'est ce que vous disiez également Nathalie Mine sur le fait que quand on a une première qui se crée, ça crée parfois un effet boule de neige ou un cercle vertueux. Quelques petites questions très pratico-pratiques pour finir cette émission. Je vous laisse piocher quand ça vous plaît le plus, Fatima Bellaredge ou Nathalie Magne. Est-ce qu'on gagne mieux ou moins bien sa vie dans une SCOP ?
Les dernières études montrent qu'on est largement dans la moyenne et un petit peu au-dessus.
Est-ce que toutes les entreprises qui s'appellent coopératives sont forcément sous forme de SCOP ? On l'a vu, non, avec les SIC notamment, mais il y a d'autres formes également ?
Oui, plein d'autres coopératives agricoles, les coopératives bancaires et encore d'autres auxquelles je ne pense pas.
D'artisans, HLM, maritimes, commerce associé.
Pouvez-vous expliquer la différence entre une SCOP et le mutualisme ? En 15 secondes.
En 15 secondes. Bon, retenons surtout qu'on a un socle commun avec le même principe de sociétaire et de prise en compte de leur parole.
Parfait, simple et synthétique. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Fatima Bellaredge, déléguée générale de la Confédération Générale des SCOP, Nathalie Magne, enseignante chercheuse en économie à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Et nous étions en ligne avec François Marciano, nouveau directeur depuis un an, directeur général de la SCOP d'Uralex. Dans un instant, nous allons avoir les flash infos, mais tout de suite la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir comment font les cascadeurs pour passer à travers les vitres. Merci.
Et la réponse à cette question-là, c'est juste après le flash.